en mars 2010, pour m'en dérioter, Gaïa seulement les tristes, à moi-même la planter.
Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew, 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 crew.
Le pare-choc, chaque attaque te plaque, rejoins le stup, les rois du chic chic, chouk chouk musique. Écoute le crew quand tu fais crac crac, grâce car capac, t'arraches la langue comme un tic-tac. Fuck les rockstars, bienvenue dans mon cauchemar. Pas de pull en cachemire, j'étouffe comme le 4-car. Hardcore, pauvre tocard, j'suis comme un persévère. Faut que ce truc persévère, putain mec, check sévère. Pas de ukulélé, pas de bimop loula. Le croustille dans ta bouche comme une cracotte ou un granola. Ma face de gogol fait trop flipper les fous, mais ça me ramène plein de cagoles quand j'enfile cette cagoule.
Le stupéflip crew. Et si la vie te saoule, et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule, et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew.
Le lapin veut sa stup dose, prêt à mordre jusqu'au sang. Il utilise sa truffe rose pour aller gratter quelques sons. Et sa tétale en sautillant, toujours au bord de l'overdose. Comment bouffer du stup sans choper la mixomatose? Ça veut du hip hop psychotrope qui provoque des cloques qui claquent. Mec, j'ai la grosse grosse patate qui scie les pattes aux psychopathes. Les haters font yesh, sont louches comme des DRH. Mec, c'est hoche, faut que tu me lâches, t'es qu'une pauvre cloche te clash. Liston rentre à la niche face aux ouf qui se postiche. Dans le crew, pas de caniche, pas de potiche, pas de triche. J'ai le flip flip crew, pas de Philippe Nicolique. Hardcore psychédélique, me demande pas ce que je fabrique, mec.
Des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule, et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule, et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew.
C'est pas de la soupe, j'balance des bombes, j'suis dans ma stup soucoupe. Ma zik et ma soupape, j'découpe ce truc au coupe coupe. Ma clé car broc, te braque, j'file des claques, fume tes clopes. J'suis le hip hop cyclope qui va te. Stupéflip, super top, ça te tartine le slop. C'est la panique dans ton fut, pas de flop pour ma clique. Le son du crew te tient en laisse, faire les oufs qui te bottent les fesses. Que tu piges, y'a pas de caresses, rasse carca dans tes corneflex. Tout ça adonne, ça tue la teuf, juste un son qui fout des baffes. J'suis king du bâtard, toujours ok pour niquer tes baffes. C'est du lourd, c'est de l'or, ce qu'y a dans mon disque dur. Je fais des disques d'art qui seront
si
disques d'or.
Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew, 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 crew.
We'll be right back. moment pour cette nouvelle radio. Une radio que personne ne connaît, qui surgit de nulle part. Vous trouvez pas ça bizarre ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Gonna tell him that I'm sick and tired of the evil things you do. Ain't gonna say you're leaving me, don't say I'm leaving you. Call up your daddy, talk to him, man. Gonna do my best to try and make him understand. I'm gonna say your daughter cheated and she lied. No matter what I do, she was never satisfied. And I don't want
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour, bonjour Mireille, tu es venue en tramway ?
Eh bah, ben, pas tout à fait.
Non, mais comment il s'appelait le tramway ?
Ma belle auto, et, mais c'est pas, j'ai pas pris le tramway nommé Désir.
Ah, dommage.
Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être deviné, nous allons vous parler de Thomas Lanier Williams III, dit Tennessee Williams. Voilà.
C'est plus simple.
Voilà, vous connaissez sûrement plus sous ce nom-là.
Oui.
Alors, Tennessee Williams, il est né le 26 mars 1911 à Columbus. Et donc c'est un dramaturge et écrivain américain dont de nombreuses œuvres ont été portées au cinéma. Donc aux côtés d'Eugene O'Neill et d'Arthur Miller, il est considéré comme l'un des dramaturges les plus importants du XXe siècle aux États-Unis.
Oui, un tout petit mot sur Eugene O'Neill qui est décédé en 1953, mais qui a eu le prix Nobel de littérature en 1936 et dont une des pièces les plus célèbres s'intitulait Le long voyage vers la nuit. Quant à Arthur Miller, bah lui, il a disparu en 2005. Alors, que citer de lui ? Les sorcières de Salem, peut-être ? Et Les Désaxés, le fameux film de John Huston, adaptation de la nouvelle The Misfits, avec qui dans les rôles principaux ? Mireille ?
Marilyn Monroe et Clark Gable.
Voilà.
Et Montgomery Clift.
C'est bien, tu connais tes classiques.
Alors, ce pseudonyme de Tennessee, il est dû au surnom qui lui a été attribué par ses copains à l'université. Donc, sa famille compte des ancêtres anglais, gallois et huguenots. Il a une sœur aînée, Rose Isabelle Williams, et un frère cadet, Walter Decking Williams. Il passe son enfance avec sa mère Edwina et sa sœur Rose, qu'il adore, chez son grand-père, qui est pasteur, et son apaisante grand-mère, Rose. Quant à son père, Cornelius Williams, qu'il déteste, c'est un voyageur de commerce alcoolique et joueur de poker, mais qui est presque toujours absent.
Oui, c'était beaucoup plus tendre côté maternel, hein, voilà, les origines, que côté paternel.
Donc, en fait, Tennessee, il est atteint de la diphtérie à l'âge de 5 ans, et donc il va occuper son temps à écrire des poèmes et des scénettes sous les encouragements de sa sœur. Il reçoit d'ailleurs sa première machine à écrire pour son 12e anniversaire. Et en 1918, son père emmène toute la famille à Saint-Louis dans le Missouri, où il a décroché un emploi dans une fabrique de chaussures. Et Cornelius Williams regardait l'activité de son fils malade avec vraiment dédain et ne l'encourageait pas du tout, hein, contrairement au reste de la famille. Et de nombreux critiques et historiens notent que Williams a trouvé l'inspiration pour la plus grande partie de son œuvre dans sa propre famille. Alors, les efforts de sa mère pour trouver une meilleure maison possible pour la famille et le comportement bruyant de son père vont obliger la famille à déménager de nombreuses fois.
Voilà, oui, c'est un peu le boulet, le père,
voilà,
hein, quand même.
Voilà, c'est ça, donc pas très facile.
Non.
Alors, en 1928, il va recevoir le troisième prix pour un essai publié dans Small Set intitulé « Can a good wife be a good sport ?» La même année, il réalise un voyage en Europe avec son grand-père maternel, voyage pendant lequel il raconte qu'il vit une triple révélation. Révélation de son homosexualité lors d'une allusion d'un officier de bord sur le navire qu'il conduit en Europe, révélation intellectuelle lors d'une promenade sur un boulevard parisien et une révélation mystique dans la cathédrale de Cologne. En 1929, William entre à l'université du Missouri, à Columbia, où il suit des études de journalisme.
Oui, grâce à ce grand-père pasteur, finalement, il a quand même eu une éducation assez complète, précoce. Hein. Voyager en Europe à l'époque, ce n'était pas évident. Et d'ailleurs, toute sa vie, il confortera ce goût pour l'Europe en allant en France régulièrement. Mmh. En Italie, il y allait tous les ans, c'était son péché mignon.
Ouais, surtout qu'après il a eu un ami pendant fort longtemps, voilà,
qui était son compagnon,
voilà, qui était d'origine italienne
principale, exactement.
Donc je vous propose d'écouter maintenant donc une première nouvelle qui a été publiée en 1930 dans la revue The Columbus et donc qui s'appelle Un sac de dames en perles.
Par une froide soirée de novembre, un petit homme marchait péniblement le long d'une allée, portant sur ses épaules un énorme sac prêt à craquer. Il avançait d'une démarche fugitive et empruntée, tel un vieux bâtard fatigué qui sent instinctivement que seule une extrême prudence peut le mettre à l'abri d'une agression. Cet homme ne vivait pas dans l'illégalité, il n'avait pas lieu de craindre d'être molesté par les forces de l'ordre. Et pourtant, tout dans son comportement trahissait la culpabilité et la peur d'être reconnu. Il longeait les murs des garages comme s'il cherchait à se dissimuler dans l'ombre et évitait la lumière de quelques réverbères. À chaque fois qu'il croisait un passant, il baissait la tête et évitait son regard. Cette attitude n'était pas celle de la dureté ni de la hardiesse insolente de ses semblables. Il semblait accablé par un sentiment presque névrotique d'humilité et de honte. Depuis 15 ans, il était chiffonnier. Chaque jour, il suivait un trajet immuable à travers les allées d'un quartier résidentiel huppé, fouillant les poubelles à la recherche de vieilles chaussures, de divers objets de métal cassés et rouillés, de ballots d'étoffe sales et déchirés. Il revendait pour une misère le produit de ses fouilles aux marchands qui savaient tirer profit de ses camelotes. Cette activité lui serait apparue insupportablement fastidieuse s'il n'avait été soutenu durant ces 15 années par un fol espoir. L'espoir de découvrir un jour, parmi tous ses rebuts, un objet de grande valeur jeté par mégarde à la poubelle. Une bague ou une épingle de diamant, une montre de prix ou des boucles d'oreilles. Un bijou qui vaudrait une centaine de dollars, de quoi assouvir enfin tous ses rêves de mendiant. Certains soirs, son cœur avait battu très fort au scintillement d'un simple morceau de verre ou à la vue d'un bout de papier d'argent sur le rebord d'une poubelle. Et bien qu'il n'ait jamais rien trouvé encore que des débris de métal, de cuir ou d'étoffe sans valeur, l'espoir n'était pas mort en lui. Il s'était fait une règle impérative de suivre chaque jour son itinéraire jusqu'au bout. Et c'est pourquoi, ce soir-là, bien que son sac soit déjà bourré de tout ce qu'il pouvait contenir, il ne rentrerait pas chez lui avant d'avoir inspecté les derniers recoins du quartier. Les pieds et le dos douloureux, il allait péniblement d'une poubelle à l'autre, s'arrêtant parfois pour changer une des trouvailles déjà enfouies dans son sac contre une autre, qui lui semblait plus intéressante. Il tomba en arrêt devant l'une des poubelles, qui se trouvait entièrement coiffée d'un carton à chapeau mauve, rempli de papier d'emballage. Saisi d'une subite impulsion, il s'empara du carton pour en examiner le contenu. Son attention fut attirée par le bruit d'un objet lourd qui glissait sous ce tas de papier. Il souleva les papiers et au fond du carton à chapeau, il découvrit le trésor qu'il avait cherché durant 15 années. C'était un sac de dames en perles. Dans un premier mouvement d'avidité, il oublia toute prudence et les mains tremblantes, il allait s'emparer du sac. Juste à ce moment-là, il entendit une porte claquer. Il s'imposa alors d'examiner longuement le talon usé d'une vieille chaussure. Son cœur battait à grands coups dans sa poitrine et sous l'émotion, la tête lui tournait. Un sac de dames en perles. Il entendit la porte se refermer. Il cessa de s'intéresser à cette vieille chaussure et, accroupi devant la poubelle, il plongea la main dans le carton à chapeau pour sentir à nouveau le sac de perles. Il caressa du bout des doigts la surface douce et fraîche de sa précieuse trouvaille, avec la délicatesse d'un séducteur circonspect qui caresse une femme dont il n'est pas sûr. Il examina encore les alentours et le fond des jardins, regardant tout autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait, puis, en un éclair, il s'empara du sac et le fourra dans la poche de son manteau. C'était fait, il tenait son trésor. Avec une nonchalance simulée, il reprit son gros sac sur l'épaule et commença à descendre tranquillement l'allée. Nul ne pouvait supposer qu'il avait trouvé ce jour-là autre chose qu'un carton rempli de vieux papiers et une vieille chaussure. Mais, dans sa poche, sa main étreignait fortement le sac de perles, comme si seul le contact des perles minuscules et fraîches contre sa paume pouvait le faire croire à la réalité du miracle. Dans sa poche, ses doigts trouvèrent l'ouverture du sac. Il l'ouvrit et glissa ses doigts dedans. Contre l'étoffe pelucheuse, il pouvait palper les pièces et les billets dont il était rempli. Et il était bien rempli. Des visions enchanteresses passèrent devant ses yeux. Vision de tous les plaisirs qu'allait lui procurer cet argent. Il se voyait déjà vêtu avec élégance, savourant des mets délectables, goûtant enfin au luxe et aux splendeurs de la vie dont il avait rêvé tant d'années. Avant d'atteindre le bout de l'allée, il se retourna et lança un dernier coup d'œil derrière lui. Et en ce bref instant, tous ses rêves se brisèrent. Debout devant la poubelle miraculeuse se tenait un grand jeune homme en tenue de chauffeur. Leurs regards se croisèrent, et bien que l'expression du jeune chauffeur soit tout à fait anodine, cela suffit à provoquer la panique dans l'esprit du chiffonnier. En un éclair, il imagina qu'on avait dû s'apercevoir de la disparition du sac de perles, qu'on avait cherché partout, qu'on avait pensé à la poubelle, et envoyé le chauffeur pour essayer de le retrouver. De toute évidence, il allait comprendre que c'était le chiffonnier qui l'avait pris. On allait avertir la police. Et voilà que le monde que le pauvre homme avait toujours redouté allait étendre sur lui ses mains froides et cruelles. Il était devenu un délinquant. Cette seule pensée le rendit fou de terreur. Une sorte de frénésie s'empara de lui comme un petit animal pris au piège. Dans son affolement, Il lui apparut que la seule possibilité de se sauver encore était de rendre le sac de perles à sa propriétaire. Sans réfléchir davantage, il se pressa de quitter l'allée et tourna le coin de la rue. Il longea le trottoir jusqu'à l'élégante résidence de Pierre Grise, d'où il croyait que le sac provenait. La peur, l'effroi même lui coupaient le souffle. Lorsqu'il s'approcha de la grille du portail, il repéra la sonnette et appuya d'un coup bref sur le bouton. La porte s'ouvrit au bout d'un instant. Dans le vestibule, brillamment éclairé, il aperçut la silhouette d'une jeune femme, vêtue d'un strict ensemble noir et blanc. Il osait à peine lever les yeux sur son visage, mais il éleva le sac de perles avec l'humilité d'un prêtre élevant une offrande devant l'autel d'un dieu courroucé. Il marmonna « J'ai trouvé ça dans la poubelle ». La femme de chambre reconnut aussitôt le sac de sa maîtresse. Elle comprit qu'on avait dû le jeter avec le carton à chapeau qu'elle avait descendu le matin de la chambre. Elle n'en craignit pas moins les conséquences de sa négligence et elle se garderait bien de dire la vérité sur la disparition du sac et surtout de quelle façon elle l'avait retrouvé. Elle le rapporta donc dans la chambre de sa maîtresse qui était en train de s'apprêter pour aller dîner dehors.
J'ai trouvé votre sac sur le piano, Mrs. Fairbairn.
Sans se détourner de la coiffeuse où elle était en train d'arranger ses cheveux, la dame répondit simplement
« Mets-le dans le tiroir, Hilda. »
Quelques minutes plus tard, le coursier d'une maison de couture se présenta in extremis avec un grand carton. Hilda le monta dans la chambre de sa maîtresse, le posa sur le lit et lui tendit la facture qui s'élevait à quelques centaines de dollars. Mrs. Fairbairn ouvrit son sac de perles et en préleva la somme demandée, pratiquement tout ce qu'il contenait, qu'elle tendit à la femme de chambre. Puis, elle ouvrit le carton et sortit de son emballage de papier de soie un manteau de soirée d'un tissu blanc et diaphane, parsemé d'éclats de métal brillants. Elle le tendit un moment sous la lampe et l'observa d'un œil critique. Puis, elle le jeta sur son lit, son beau visage délicat tordu en une grimace de dégoût.
Franchement, je ne devais pas avoir toute ma tête quand j'ai acheté cette horreur. Comment ai-je pu penser une minute que je porterais un truc aussi ridicule ?
Elle retourna à son miroir et recommença à lisser les boucles dorées de sa chevelure. Elle avait déjà oublié cette petite contrariété et son visage reprit son expression habituelle d'autosatisfaction souriante.
Bon, voilà, faut faire attention hein, quand on achète des bijoux, Mireille.
Oui. Moi, j'en connais plein, mes coffrets.
La chance.
Alors, pendant les 3 années qu'il passe dans l'université du Missouri, Williams affirme ses prétentions littéraires et soumet ses textes au théâtre de la faculté, avec succès dans la plupart des cas. Mais au bout de ces 3 ans, son père décide, pour des raisons d'argent, de le déscolariser. Et donc il le fait placer comme manutentionnaire dans l'usine de chaussures où il travaille. Et pendant 2 ans et demi, Williams occupe ce poste avec une certaine répulsion. La nuit, il écrit des poèmes qu'il fait publier, mais il va passer une période plutôt désenchantée, déprimée, et il est hospitalisé en mars 1935 pour dépression nerveuse. Dans cette même période, sa sœur Rosa fait sa première crise de démence. Délaissant définitivement l'usine, Williams va reprendre le chemin des études en s'inscrivant à la Washington University de Saint-Louis, toujours dans le Missouri. Dans cette même année, Williams décide de se consacrer au théâtre. Et sa toute première pièce, Kero Chengai Bombay, est jouée dans l'été par une petite troupe de Memphis. La revue de la faculté publie l'été suivant, en 1936, sa nouvelle « 27 remorques pleines de coton » qui inspirera plus tard le film « Baby Doll ». Et donc à l'automne, tandis qu'il poursuit ses études à la Washington University, sa deuxième pièce, The Magic Tower, est jouée par une troupe de Saint-Louis.
Oui, donc Baby Doll hein, traduit le titre du film en français, La poupée de chair, qui a été adapté au cinéma par Elia Kazan en 1956.
Un très beau film.
Et finalement, beaucoup de ces nouvelles vont être adaptées au cinéma. On peut en parler tout à l'heure. Et c'est vrai que, en t'écoutant, finalement, toute sa vie, il a été écrivain au final, parce qu'en dehors des 2 ans là où son père le place dans l'usine de chaussures.
Oui, mais il écrit quand même.
Il écrit quand même
la nuit.
C'est sa seule expérience professionnelle autre. Et c'est quand même assez rare hein, les gens qui réussissent à être écrivain comme ça dès le départ, dès la jeunesse. je trouve.
Donc là, vous allez écouter une nouvelle inédite, donc qui est parue là récemment dans ce recueil, voilà, dont j'ai pas noté le titre, excusez-moi. Et donc cette nouvelle s'appelle Je te donne une pomme.
Bah, je crois que c'est les nouvelles.
Je sais plus.
Oui, c'est ça. Les nouvelles de Tennessee Williams. Ils ont regroupé les nouvelles dans en livre de poche.
Merci. Ouais. Et donc c'est une nouvelle qui a été écrite vers 1936.
Depuis une heure qu'il avait quitté les collines, il marchait sous le soleil qui lui brûlait la nuque. La sangle de toile de son sac lui écorchait les épaules et il ressentait chaque secousse dans le bas du dos. Il le changeait de place de temps en temps, mais aucune position ne lui apportait plus qu'un soulagement passager. Seul passaient quelques rares voitures. C'était pour la plupart des tacos poussiéreux où s'entassaient des familles. Les gosses lui faisaient des grimaces et des signes, mais les adultes faisaient semblant de ne pas le voir. Une Ford 1932 s'arrêta à son niveau. Elle était occupée par trois hommes, visiblement sous, et une femme. La femme se pencha à la fenêtre pour lui demander s'il avait de l'argent.
J'ai 65 cents.
Ah, ça nous avance pas beaucoup. Nous avons laissé la route secours en gage pour payer le dernier plein. Et maintenant, nous cherchons un passager pour payer l'essence. Vous comprenez, n'est-ce pas?
La voiture démarra brusquement et la femme disparut à l'intérieur. Il constata qu'elle avait dit la vérité. À l'arrière, il n'y avait plus que le support vide de la roue de secours au-dessus des plaques orange et noire du Nouveau-Mexique. « Bon Dieu, pensa-t-il, s'il faut que je marche jusqu'à Lexington. » En Californie, il est relativement facile de faire du stop, mais plus on va vers l'est, et plus les gens semblent devenir méfiants. C'est peut-être parce que sur la route, votre aspect a tendance à se dégrader. Vos vêtements se couvrent de poussière, et les désappointements successifs rendent plus difficile le sourire engageant qu'il faut afficher pour donner aux automobilistes l'envie de s'arrêter. Lorsqu'on est frais et dispo, on peut exercer une sorte de contrainte morale sur les conducteurs. Ça se passe surtout au niveau des yeux. Vous vous appliquez à exprimer quelque chose dans votre regard qui attire leur attention et, à moins que ce ne soit de vrais fils de pute, ils ne peuvent faire autrement que de s'arrêter. Mais ça, c'est dans l'ouest. Plus loin, vers l'est, ce sont tous des fils de pute. La moitié du temps, s'il y en a un qui s'arrête, c'est un PD, et vous devez vous laisser tripoter pour payer votre voyage. Ou alors, c'est un ivrogne qui s'en prend à sa femme, maudit son patron, et vous faites dans votre froc de peur de le voir se planter dans un virage à 110 km à l'heure. Ou encore, comme dans la Ford dont je viens de parler, ce sont des fauchés qui veulent que vous participiez aux frais d'essence. Il regarda en arrière. Le soleil descendait vers les collines. Sa forme devenait distincte dans le déclin de son éclat brûlant. Il était parfaitement rond, un peu flou sur les bords, comme une balle de tennis rouge. Dans la lumière moins intense, toutes les formes semblaient ressortir plus nettement. Quelques minutes plus tôt, la ville dont il s'approchait semblait perdue dans un halo flottant. Maintenant, elle prenait des contours définis. Il voyait le soleil couchant se refléter sur le clocher et sur les toits pointus des maisons, nichés sur le versant des collines, loin devant lui. Il se demandait s'il pourrait les atteindre avant la nuit et trouver là-bas un endroit pour dormir. Il aperçut soudain, devant lui, une voiture avec une roulotte.